France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Si j'étais mauvaise langue, je dirais bienvenue en 2015. Même nombre de régions à droite et à gauche. Certains ont même dit que c'était la revanche de l'ancien monde. Si on considère encore une fois qu'il y a réellement un enseignement à tirer d'une élection qui a rassemblé si peu de monde, si on fait même le calcul un peu cruel des scores des vainqueurs par rapport au nombre d'inscrits et pas de votants, le plus haut score est en Occitanie avec 20,9%. Voilà qui ne va pas aider à parler légitimité. Quand je regarde les questions que vous avez, beaucoup d'ailleurs traitent de ce sujet ce soir. Revanche de l'ancien monde donc peut-être, ou monde local, celui des régions, des départements et des mairies qui n'intéressent pas grand monde, qui restent donc dans des découpages habituels, comme si on n'allait pas s'encombrer à tout chambouler, pendant que le monde national, lui, continue d'attirer des électeurs avec deux autres partis, donc qui n'arrivent pas à se trouver un ancrage local, grand perdant. Mais est-ce qu'on les disqualifie de la présidentielle à venir? On va évidemment en parler. Est-ce que les cartes sont intégralement rebattues, comme on dit dans le jargon? Le chef de l'État a décidé d'enjamber ces élections qui l'encombrent, le Rassemblement National aussi et pour les mêmes raisons. Que dire des écolos qui sont là, mais sans le hold-up espéré? Ceux qui ont pris la tête d'union à gauche n'ont pas créé d'électrochoc, parfois même d'ailleurs un rejet dans leur propre rang, et là aussi on y reviendra ensemble. Bref, ces deux tours auront au moins eu le mérite de faire sortir tout le monde du bois, désormais après avoir déploré le manque d'intérêt pour ces élections régionales. Les élus tous en cœur n'ont parlé que de présidentielle. Hier soir, nous avons eu un vrai avant-goût des mois à venir, avec à droite les candidatures qui sont prêtes, à gauche, on est parti pour les empoignades. Qui doit mener les débats du PS et des écolos? Au Rassemblement National, on va devoir réfléchir au vrai message qui serait désormais mobilisateur. En attendant, mettons ça dans le shaker, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et le premier, c'est vous, Serge, soyez le bienvenu, bonsoir.
Oui, bonsoir France Inter, bonsoir Fabienne, bon, merci d'avoir pris mon appel. Voilà, mais moi je dis que bon, il y a un gros danger, c'est la démocratie qui est en danger. Notre démocratie, elle ne représente plus rien aujourd'hui. Quand vous pensez, vous venez de le dire, là, bon, le plus gros score, ça représente 20% des électeurs. Où est la légitimité de ces élus? Pour moi, ils sont illégitimes, tous autant qu'ils sont. Nous avons des ministres qui se présentent, qui sont rejetés par déjà au premier tour. Moins de 10% ne peuvent pas aller au deuxième tour. Ils démissionnent pas. Mais où est notre démocratie? Notre démocratie est vraiment en danger.
Vous avez voté? Je peux vous demander si vous avez voté, Serge?
Je n'ai jamais manqué un vote. Il m'est arrivé quelquefois, justement, je vais en venir après, lorsqu'il y a deux personnes qui se présentent qui ne me conviennent pas de voter blanc, mais je n'ai jamais manqué un vote de ma vie. C'est trop important de voter, pour moi c'est comme ça. Et c'est pour ça que je pense que pour inciter peut-être une partie des abstentionnistes à voter, il faudrait tenir compte de ce vote blanc.
Le grand serpent de mer du vote blanc, merci beaucoup, et comptabilisé. Merci beaucoup, Serge, pour cette entrée en matière, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Chloé Morin est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, spécialiste de l'opinion à la Fondation Jean Jaurès. Jérôme Jaffray est avec nous, bonsoir, monsieur Jaffray, directeur du CECOP et chercheur associé au CVIPOF. Et bonsoir à vous, Yaël Gauze.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Chef du service politique de France Inter. Chloé Morin, bien sûr que ces chiffres-là sont assez édifiants si on fait la part effectivement des inscrits qu'on regarde. Je citais le chiffre tout à l'heure, c'est 20,9 en Occitanie, mais tout le monde tourne autour de parfois 12,4% en Centre-Val de Loire, autour de 16-17, pas seulement. Serge, notre auditeur, appelle ça une illégitimité au fond. Oui, c'est la démocratie, mais est-ce que rien que ce chiffre commence pas à poser un problème?
Ça commence à poser un problème, effectivement. Mais là, nous sommes engagés sur cette pente depuis déjà pas mal d'années. D'ailleurs, la France n'est pas la seule démocratie à souffrir de cette espèce de montée de l'abstention contre laquelle on a bien du mal à trouver des remèdes. La seule élection peut-être qui résiste encore à cette abstention massive, c'est la présidentielle. C'est vrai que pour l'instant, et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut pas tirer de conclusion de l'abstention aujourd'hui pour ce qui va se passer à la présidentielle en 2022. Mais de fait, on a tendance à penser que les démocraties se meurent d'un coup d'État ou de l'avènement d'un dictateur. En réalité, elles ont beaucoup plus de chances de s'affaisser par indifférence des citoyens.
Jérôme Jaffray, est-ce que les analyses qu'on nous faisons depuis le premier tour, et y compris ce deuxième tour, ont un sens quand on regarde effectivement ce taux d'abstention-là? Parce que, comme le dit Chloé Morin, si ça se trouve, de toute façon, tout est à remettre dans le shaker, puisque nous voterons pour les élections présidentielles. Donc, pardon de commencer cette émission comme ça, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ce qu'on se dit depuis hier, au fond?
Espérons-le doublement. D'abord pour les analystes, et puis ce que vous dites sur l'élection présidentielle, c'est pas gagné complètement. Mmh. Hein, le retour massif des électeurs aux urnes dans un an. Va falloir réussir, hein, parce que va falloir passer de ces 34% de participation à nos 75-80% habituels. Voyez l'ampleur du fossé, c'est presque un gouffre qui nous sépare. Mmh. Moi, je ne pense pas à l'illégitimité. Ça, je dis qu'il y a un problème de la démocratie. C'est vrai qu'elle ne se porte pas bien, mais il n'y a pas d'illégitimité. Et ça, c'est un principe absolu. Mmh. Le principe démocratique absolu, les électeurs qui vont voter font la décision politique et font les élus. Il y a 16 millions à peu près d'électeurs qui sont allés voter à ce second tour de scrutin. 16 millions. Ça n'est donc pas rien. Ça n'est pas négligeable. Et il y a une responsabilité des électeurs qui ne vont pas voter. Mmh. Et on ne peut pas dire... Alors, au premier tour, on pouvait dire qu'il n'y a pas eu de campagne, l'information ne circule pas. On n'a parlé que de ça entre les deux tours de scrutin, et les électeurs ne sont pas davantage revenus aux urnes. Je considère donc qu'il y a une forte responsabilité des électeurs. Alors, le problème, c'est que la classe politique tente à s'accommoder de cette faible participation. Et c'est un problème.
Et la raison pour laquelle je pose la question à Yael Gauze, c'est qu'on a entendu, y compris pendant tout ce début de quinquennat, on a entendu cette petite musique, mais finalement, Emmanuel Macron n'a été élu que par 20% des gens, etc. Donc, si cette petite musique peut être écoutable et entendue à toutes les échelles, pardon de le dire comme ça, on n'est pas sorti des ronces.
Mais moi, je rejoins Jérôme Jaffray, je trouve que c'est... extrêmement dangereux de considérer que c'est le nombre d'inscrits qu'il faut rapporter au nombre d'inscrits la force d'un homme politique ou d'une femme politique quand elle est élue. Lorsque Emmanuel Macron était délégitimé par ses adversaires après son élection, c'était sur la base de que représente-t-il vraiment, combien de Français ont réellement mis un bulletin pour Emmanuel Macron. Mais c'est la règle du jeu initial, du pacte citoyen, du pacte civique. C'est, vous allez aux urnes, vous choisissez, si vous vous abstenez, vous n'avez pas le choix. Par ailleurs, pour le soi-disant non-choix de ces élections locales et départementales, je le redis encore comme avant le premier tour, vous aviez à peu près 130 programmes en France. 13 régions métropolitaines et une dizaine de listes en moyenne par région. Ça laisse quand même le choix. Mmh. Alors, si la propagande électorale n'est pas arrivée à domicile, c'est une réalité, mais tout était sur une petite application sur Internet. Ça s'appelait campagne-régionale-intérieur.gouv.fr. Vous aviez tout. Il fallait faire peut-être l'effort aussi.
Chloé Morin.
Oui, je pense que la question de principe, évidemment que les élections font la légitimité. Le problème de ce qu'on a pu voir pendant ce quinquennat, et notamment par exemple avec les Gilets jaunes, c'est que l'acte de s'abstenir est un acte conscient, on va dire. Effectivement, les électeurs qui ne se sont pas déplacés dans ce second tour l'ont fait par choix et non pas par méconnaissance, par exemple. Mais une fois qu'on est élu, ça ne veut pas dire qu'il y a un consentement tacite. Et c'est la gouvernabilité, en quelque sorte, qui pose problème, et la capacité du pouvoir à faire des réformes.
Je ne sais pas si on pourra un jour savoir quelle est la part d'abstention militante, on va appeler ça comme ça, et d'abstention par négligence, on va dire. On peut faire cette part-là ou pas, Jérôme Jaffray ?
Vous avez raison de souligner cet aspect, parce que on met tous les abstentionnistes comme si c'était un bloc homogène. C'est totalement absurde. Vous avez des abstentionnistes de désintérêt, d'indifférence, ça compte. Et dans les élections intermédiaires, les élections locales en France, c'est un pourcentage important qui est passé au fil des années de 30 à 50% en gros, et qui atteint effectivement ces deux dimanches des taux exceptionnels. Vous avez un abstentionnisme d'éloignement des structures de la société, qui est, si vous voulez, un désintérêt même pour la vie sociale, qui va bien au-delà de la vie politique, et c'est un problème, mais qui du coup dépasse le simple cadre de l'élection. Et puis, vous avez un abstentionnisme, je dirais, de sanction de la classe politique. Voilà, on est contre la classe politique. Ça, ça monte, mais ça n'est qu'une partie du phénomène. Mais comme l'a dit Yaël Gouz, très justement, ils portent la responsabilité de leur non-choix, d'une certaine façon. Car il y a suffisamment de lutte ouvrière au Rassemblement national, on peut exprimer tous les choix qu'on veut, et je rappelle que des Gilets jaunes ont présenté des listes aux élections municipales qui, en moyenne, ont fait 1% des voix dans les communes où elles étaient présentes.
Mais est-ce qu'on peut considérer, Chloé Morin, qu'on est rentré dans une ère, je crois que c'est Thomas Legrand qui a employé cette expression-là pendant la soirée électorale, une ère de deux France. Il y a la France, effectivement, nationale, des élections nationales, et puis il y a l'autre, donc c'est pour ce type d'élection-là, pour ce type de rendez-vous-là, que effectivement on n'est pas là, que ce soit par militantisme ou autre chose, mais on est vraiment dans une cassure entre deux France, comme si au fond, ce qui se passait dans les territoires était quelque chose de purement administratif. La vraie politique se joue ailleurs.
Mais il y a le sentiment, chez la plupart de nos concitoyens, que de toute façon, l'élection présidentielle surdétermine la vie politique. Tout découle de l'élection présidentielle. D'où la surmobilisation que l'on connaît tous les 5 ans. Et à l'inverse, on a une bonne part des Français qui considèrent que les élections locales ne changent pas la vie, et que dans ce cas-là, on peut choisir la continuité. Et d'ailleurs, ces élections ont consacré les sortants, justement, parce que on se dit, bon, les choses vont pas si mal.
C'est ça, comme quelque chose qui roule, en fait, et qu'on ne change pas presque par feignantise, pardon de le dire comme ça, mais c'est un peu ce que j'entends, en fait.
Mais du coup, les partis de l'ancien monde, entre guillemets, auraient tort de voir dans cette élection, d'en tirer des conclusions trop hâtives. Mmh. Parce que, en réalité, ça n'est pas la droite et la gauche qui ont été consacrées en soi, c'est leur antériorité. C'est le fait qu'ils avaient un ancrage, sans doute, et que donc ça leur a donné un avantage comparatif par rapport à des partis plus neufs, du type LREM par exemple, ou même le RN.
Alors on va y venir au Rassemblement National dans un instant. Une petite remarque, Yaël, d'abord.
Non, cette dichotomie entre les deux vies locales et nationales, c'est séduisant sur le papier, mais moi j'y souscris pas. Prenez l'exemple de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. C'est une figure locale, président de région. On lui reprochait dans sa campagne d'enjamber la région pour devenir une figure nationale pour la présidentielle. Mais les électeurs qui ont voté pour lui localement dans les Hauts-de-France savaient très bien ce qu'il faisait en l'élisant à la présidence de la région. C'était pour passer l'étape supplémentaire ensuite derrière aussi et la présidentielle. Donc les deux sont connectés. Un vote régional peut enclencher une dynamique nationale pour quelqu'un qui se présente.
Et puis, si vous permettez d'un mot,
allez-y.
C'est quand même une excuse facile pour La République En Marche et le Rassemblement National de faire cette opposition entre la vie locale et la vie nationale. Ça leur permet de dire « Oh, même pas mal, on a pris un bide historique, mais ça n'a aucune importance, car nous n'existons pas localement. » Il faut quand même le faire, que des partis politiques... Le Rassemblement National, excusez-moi, il existe depuis maintenant un demi-siècle et sur la scène politique depuis une trentaine d'années, qu'il échoue toujours à s'installer dans des structures politiques locales est le signe quand même d'un échec qui va bien au-delà de cette déconnexion entre deux mondes.
Et c'est justement le sens de la question d'Yvon. Bonsoir Yvon.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y Yvon.
Je voulais poser une question sur le Rassemblement National, mais j'écoute votre émission depuis le début. Est-ce que je peux faire une petite remarque concernant les personnes qui ne se placent pas et qui ne vont pas voter, si vous me permettez?
Allez-y rapidement.
La France est une république. La France et Paris, c'était la capitale du luxe. La France est très riche. On a des libertés. On a le luxe d'aller voter, qui n'existe pas en Corée du Nord, en Chine ou dans d'autres pays. Et c'est quand même indécent ou inadmissible qu'on n'utilise pas cette liberté. On nous demande poliment, il faut être bien élevé, d'aller voter. Et ceux qui ne votent pas, il y a une question d'indécence. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais
on dit l'illégitimité. Est-ce que De Gaulle, en 1940, il était tout seul face à 40 millions de Français? Il était tout seul. Est-ce qu'il était illégitime?
Et on posera la question tout à l'heure à nos invités de savoir pourquoi ce genre d'argument-là, effectivement, ne prend pas sur un certain nombre de gens quand même dans la population, la preuve. Sinon, il y aurait une meilleure participation. Votre question sur le Rassemblement National?
Oui, depuis des années, on entend toujours la même chanson, la montée du Front National, et puis le côté discipline des électeurs et des membres du Front National. Et les deux tours ont montré un tassement, voire une défaite du Front National, le Rassemblement National. Comment peut-on analyser ou comprendre ce tassement, cet échec du Rassemblement National ?
Merci beaucoup Yvon, et je vous promets on reviendra à votre début de question tout à l'heure dans un instant. Chloé Morin, est-ce que c'est décidément le RN n'y arrive pas, ou est-ce que c'est un trou au passage?
Le Rassemblement National a souffert plus que les autres du déficit de participation, parce que, quoi qu'on en dise, son électorat est aussi a aussi tendance à moins participer que les autres, structurellement. Alors c'est vrai que les succès engrangés ces dernières élections nous ont fait perdre ça de vue, parce qu'il avait réussi à faire de très bonnes européennes notamment, et puis il y avait la présidentielle avant, etc. Mais de fait, quand on regarde la sociologie de l'électorat, il y a quand même plus de chances que des électeurs des catégories populaires, par exemple, soient abstentionnistes. Donc là, le RN a été pénalisé. Nous n'y étions plus habitués parce qu'on avait l'habitude de le voir premier parti de France. La preuve que c'est possible et que ça n'engage pas pour autant l'avenir. Mmh. Ça, à mon avis, ça ne veut pas dire que Marine Le Pen ne sera pas au second tour de la présidentielle.
Jérôme Jaffré, on a beaucoup dit hier qu'il y avait une ligne à trouver entre cette respectabilité gagnée par le Front National et la radicalité perdue qui fait que certains électeurs savent plus très bien, ou alors finalement vont vers une droite plus traditionnelle. Est-ce que c'est un vrai argument, ça ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce qu'il faudra trouver une autre...
Il y a un échec patent du Rassemblement National, parce que le rôle du leader, c'est de mobiliser ses électeurs. C'est ça, d'abord. Et Madame Le Pen, elle a fait une quasi-campagne pré-campagne présidentielle dans la campagne régionale. Remarquez, Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est un vieux routier de la politique. Les régionales, il en a à peine parlé, n'existe pas, et il se lance dans sa campagne présidentielle sans qu'on puisse dire il a subi un grave échec, alors que la France insoumise, on ne peut pas dire que ce soit une réussite électorale assez régionale. Vous avez quand même la claque du second tour de Provence-Alpes-Côte d'Azur et marque une extraordinaire limite aux ambitions de Marine Le Pen pour la présidentielle. Cette défaite 57-43 dans la région avec les Hauts-de-France la plus favorable au Rassemblement National, où la droite de Provence-Alpes-Côte d'Azur est la plus à droite de toutes les droites, où ils avaient une tête de liste, Thierry Mariani, venant du RPR, ancien ministre de Sarkozy, ce qu'il ne cessait de rappeler, et ils se prennent la tôle de 57-43 derrière. Avec, on disait que le Front Républicain, ça n'existait plus. Pas du tout. Ça existe très bien dans ces cas-là. Et du coup, ça dit que si, comme le dit Chloé Morin, Marine Le Pen peut toujours espérer accéder au second tour de la présidentielle, elle se trouve devant l'extraordinaire difficulté de se dire, mais arriver à rassembler une majorité de Français dans un second tour de présidentielle reste toujours, toujours aussi extraordinairement difficile pour elle.
La question de l'auditeur était très pertinente, parce qu'en réalité, si on prend le temps long, c'est depuis 2014, depuis 2014-2021, c'est en trompe-l'œil.
C'est du temps moyen long.
La force de frappe médiatique de Marine Le Pen est inversement proportionnelle à ses résultats sur toutes les échéances depuis 2014. Entre 2014 et 2020 municipal, elle perd 44% de ses élus municipaux. Au régional, là, elle perd près de 100 élus régionaux. Elle perd la moitié de ses cantons.
Mais du coup, je reviens à ma question de base, Yaël. Est-ce qu'il y a une ligne que le Rassemblement National a perdu de vue ? Est-ce que elle sait plus très bien sur quel pied danser ? C'est quoi l'idée ? Est-ce que c'est Thierry Mariani, Jérôme Jaffré le disait, transfuge de la droite, Sébastien Chenu, transfuge de la droite ? Donc est-ce que c'est aussi des gens...
La conclusion qu'on peut en tirer, là, c'est que diaboliser ou dédiaboliser, il y a une forme peut-être de plafond de verre pour Marine Le Pen qui est liée à... Qu'est-ce que ça donnerait au pouvoir ? Quelle est la compétence au gouvernement, d'un gouvernement RN ? Ce serait quoi ? Et quand les gens se posent cette question-là, je pense qu'ils réfléchissent à deux fois, en fait. Mmh. Et c'est ce qui fait, aujourd'hui, les limites, peut-être le plafond de verre de Marine Le Pen, que ce soit un RN diabolisé ou dédiabolisé, normalisé ou pas normalisé, anti-système ou système, c'est... Elle dit, essayez-nous, c'est son argument aujourd'hui, essayez-nous pour qu'on vienne au pouvoir et qu'on sache vous montrer ce qu'on sait faire. Sauf que, localement, c'est plutôt une perte de pouvoir plutôt qu'un accroissement du pouvoir local.
Vincent, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Vincent.
Eh bien, écoutez, beaucoup de ce que je voulais dire a déjà été dit. Je rejoins le propos de Serge. Moi, je suis très, très en colère devant ce qui s'est passé hier et dimanche dernier. Écoutez, il y a des gens qui se sont fait casser la gueule pour avoir le droit de vote, je le dis un peu sèchement, mais je ne comprends pas, quand on sait l'importance dans notre vie quotidienne, des régions et des départements, les lycées, les collèges, les transports, l'action sociale, je ne comprends pas ce désintérêt de la population pour ce type d'élection. Vous venez de réembrayer sur le sujet des présidentielles, mais le futur président de la République, il aura besoin d'élus régionaux, d'élus départementaux pour entretenir les lycées, pour faire rouler les trains, pour refaire les routes. Et il aura besoin aussi des élus départementaux pour mener une politique d'action sociale qui soit compatible ou qui réponde à ses aspirations. On sait très bien que dans tous les départements, moi qui travaille sur le sujet du handicap, il y a des politiques sociales qui sont différentes en direction des personnes âgées ou des personnes handicapées selon les départements de France. Alors, chose entendue ce matin sur votre antenne, le reportage sur ces jeunes des bureaux, le jeune qui lit les politiques qui connaissent pas le prix du ticket de métro ou de la baguette de pain. Il y a une liste sur la région Île-de-France qui proposait quand même le ticket de métro gratuit pour les jeunes de 18 à 25 ans. Alors, moi, je suis furieux ce soir et je suis inquiet. Je me dis, mais bonsoir, est-ce qu'on n'est pas mûr pour que l'un de ces généraux qui signe des rubriques dans des tribunes, certains journaux aujourd'hui, pour que demain on se prenne un régime autoritaire. Je pense à la formule de Gaulle, les Français sont des veaux. Eh bien oui, les Français sont devenus des veaux parce que l'individualisme a pris le dessus sur tout. J'ai envie de leur dire, mais allez voir chez Poutine et chez Loukachenko.
Merci Vincent. On a entendu, Vincent, ce que vous nous disiez et ce que disaient aussi les auditeurs précédemment. Moi, j'entends cette colère-là, Chloé Morin, et en même temps, ce que je ne perçois pas depuis la semaine dernière, c'est comment on les ramène aux urnes. Tout ce que j'entends, c'est « Ah, bah, il faudrait voter par Internet » ou « Ah, il faudrait des votes électroniques », comme si ce qui ramenait ces gens-là aux urnes, c'était juste la technique du vote. Mais c'est évidemment bien au-delà de la technique du vote. Donc, comment on fait comprendre à ces gens qui, au-delà de se faire engueuler par Vincent ou père Serge précédemment, parce que on sait tous que le vote est important, pourquoi on n'arrive pas à les ramener?
Parce que la rupture est très profonde et que ça remonte à loin, et qu'en fait il y a un certain nombre de traumatismes et d'événements qui se sont accumulés, que ce soit des scandales politiques, que ce soit des trahisons, que ce soit des échecs réels ou perçus. Et donc, je dis réel ou perçu parce que, par exemple, le pouvoir politique a été dessaisi d'un certain nombre de ses prérogatives, notamment au profit de l'Union européenne, par exemple, et que les gens peuvent porter des attentes démesurées vis-à-vis des... Enfin, sur des politiques. Donc, la question, c'est évidemment pas est-ce qu'il faut voter par Internet ou pas par Internet, même si ça peut, à la marge, faciliter les choses. La question, c'est comment on rétablit la confiance. Et de ce point de vue-là, le local... semble avoir, la politique locale semble être capable d'offrir des réponses, puisqu'on voit que des sortants sont capables, sur la base de leur bilan, de convaincre les électeurs. Alors certes, ça n'est pas une majorité d'électeurs en soi, et il y a une abstention très forte, mais enfin bon, on voit qu'on peut commencer à construire quelque chose, à reconstruire quelque chose, mais le problème c'est qu'au niveau national, pour l'instant, on reste dans une vague de dégagisme et qu'on voit assez mal comment enrayer ce cycle infernal.
Pas de dégagisme local, mais du dégagisme national.
C'est même, pas facile à suivre. C'est même prodigieux parce que le dégagisme de 2017 qui a sorti la classe politique installée aboutit à un dégagisme des urnes en 2021 qui conforte totalement la classe politique locale et la laisse intacte. Aucun changement, comme vous le disiez, en tout cas en métropole. Donc, c'est effectivement l'inverse du dégagisme classique. La colère fait que les électeurs sont restés chez eux parce qu'en partie, d'ailleurs, ils n'avaient pas un message politique clair à exprimer. Aux élections locales, il faut bien dire... municipales, régionales, départementales, les électeurs sont beaucoup plus nombreux à participer s'ils ont le sentiment d'exprimer un message politique national. À partir du moment où La République En Marche n'avait pas de sortant, où nous étions en fin de Covid avec un président de la République pas impopulaire, mais pas vraiment soutenu par son parti politique, ça n'était pas nécessaire. Derrière tout cela, la vraie question qui reste, c'est la présidentielle. C'est-à-dire, notre système présidentiel aboutit, et notre élection présidentielle aboutit aujourd'hui à confier un immense pouvoir et une immense attente des Français à quelqu'un qui réunit 20% des voix, 20-25% des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, bénéficie d'un vote rejet au second tour de scrutin contre son adversaire et pas un vote d'adhésion, empoche une majorité aux élections législatives pour éviter la cohabitation et se trouve donc pendant 5 ans dans une toute puissance et en fait très difficile à traduire dans des actes et des changements alors qu'il a promis la lune pendant toute la campagne présidentielle pour se faire élire. Tôt ou tard, la question de ce système politique devra quand même être repensée et reposée.
Moi, je reviens en arrière. Avant l'élection, il y a le vote. Vous parliez du vote par correspondance. Est-ce que la technologie suffit à remotiver les électeurs?
Correspondance, c'est pas pareil. Puisqu'en plus, ça a existé, le vote par correspondance.
Mais vous avez aujourd'hui une scène assez cocasse qui s'est produite ce matin à l'Assemblée nationale, l'Assemblée franco-allemande parlementaire. Angela Merkel et Jean Castex en visioconférence avec un député allemand qui demande à Jean Castex, dit donc, les Français, l'abstention, c'est grave. Il y a une détresse des Français. Jean Castex essayant de dire, oui, c'est sérieux, faut prendre ça au sérieux. Et Angela Merkel faisant la leçon en disant, nous, notre taux de participation, il a quasiment pas bouger parce qu'on avait 40 à 44% de votes par correspondance en Allemagne lors des dernières élections fédérales ou dans les Länder, je ne sais plus lesquelles. Ça, c'est quand même une question qu'il faut se poser. Combien de téléphones sonnent on va faire encore pendant un an pour qu'à un moment donné la réforme se mette en place? Depuis les municipales de 2020, on pose la question depuis la pandémie. Comment voter à distance? C'est quand même un vrai sujet, je pense. Et puisqu'on parle de l'électorat abstentionniste jeune, combien de jeunes ne sont pas domiciliés au bon endroit aussi par rapport à leur bureau de vote? Il y a une perdition. Et le tracas administratif, la phobie administrative du jeune, il faut peut-être aussi y penser. Ça joue dans l'abstention.
Je vous assure. J'imagine que ça joue. Après, effectivement, une procuration, c'est
quand
pas...
on fait tout par appli avec un clic, on n'a plus envie de faire ces démarches-là.
Alors, après, je ne sais pas, moi, je me pose la question, Chloé Morin, de l'acte d'aller voter, en fait, et de l'importance de l'acte d'aller voter, donc de réfléchir à ce qu'on fait lorsqu'on y va, plutôt que de simplement voter comme on clique sur une appli, quoi. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je suis vieille,
thèses,
hein, déjà.
C'est-à-dire, il y a une thèse qui dit qu'il faut s'accommoder d'une réalité qui, effectivement, est faite de pratiques du numérique et donc de facilité d'utiliser les applis, etc. Et donc, à partir de là, il faut faire avec et donc il faut faciliter le vote. Et puis, il y a une thèse qui est...
C'est l'école Darmanin, l'autre.
Voilà. Une qui thèse veut pas. Qui est, voter, c'est quelque chose de sacré, c'est un rituel. Donc, il ne faut pas désacraliser les choses. Il faut maintenir une espèce de temps collectif où tout le monde, en même temps, fait un choix qui engage l'avenir du pays. Entre ces deux thèses, le débat, on voit bien que les choses sont gelées, puisqu'il ne se passe rien.
Il y a une sacralité du vote. Si vous défaites la sacralité du vote, vous affaiblissez davantage la démocratie. C'est ce qui fait qu'on hésite beaucoup. Le vote par correspondance est acceptable, mais il suppose, par exemple, d'avoir au moins 15 jours entre les deux tours de scrutin.
Ça, c'est le problème.
Parce qu'avec les 8 jours, vous ne recevez pas la documentation, c'est déjà le cas. Et votre courrier arrivera après après le vote, donc il faut revoir les choses. Mais la simple appli, elle ferait perdre une part de la sacralité du vote. Or, ce qui reste de légitimité aux élus, surtout, ne l'entamons pas.
François est avec nous. Bonsoir, François.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon intervention. Si vous le permettez, je voudrais réagir à plusieurs choses que j'ai entendues de la part de vos intervenants. La première sur la légitimité, moi je ferai une nuance, je ne sais pas s'ils y ont pensé, et si oui, pourquoi ils n'en parlent pas, entre l'égalité, les élus avec très peu de participation sont légaux, c'est vrai, c'est la Constitution, c'est le respect de la loi, mais la légitimité, on peut en discuter. Personnellement, je vous téléphone aussi pour vous dire que je suis quelqu'un qui a toujours voté. J'ai toujours voté à gauche et je me trouve depuis quelques élections dans l'impossibilité de m'exprimer parce que les votes blancs ne sont pas pris en compte et donc je ne peux pas aller. J'ai encore été voté au premier tour cette fois-ci, mais au deuxième tour ici, près de Perpignan, j'avais le choix entre les Républicains, le Rassemblement National et les Socialistes. Les Socialistes, depuis M. Hollande, ont complètement détruit l'espoir des véritables électeurs de gauche. Pardonnez-moi, ma voix est un petit peu tremblotante parce que je suis indigné de cela. Comment voulez-vous voter pour des gens qui ont appliqué des lois comme la loi El Khomri ou comme la destruction du code du travail, qui étaient des choses qui n'étaient même pas dans leur programme.
François, alors, on entend, je voudrais bien qu'on refasse choix. Pas si, pardon, excusez-moi de vous interrompre François, mais si on pouvait éviter de refaire le quinquennat de François Hollande maintenant, mais je comprends ce que vous dites et le fait que vous n'arrivez pas à trouver votre place dans ce qu'on vous propose, et c'est pour ça que vous vous êtes abstenu aujourd'hui, Jérôme Jaffray. après, c'est intéressant ce qui s'est passé avec la gauche à cette élection-là. On a d'un côté, je pense à Carole Delga par exemple, une gauche estampillée Parti Socialiste, qui n'a pas bougé, qui n'a fait aucune alliance et qui fait le plus haut score. On a d'autres gauches qui se sont unies et qui n'ont fait que s'additionner sans marche montée sur une marche supplémentaire. Le désarroi dont parle François, il n'est pas le seul à l'avoir. Peut-être que ça va le rassurer un peu d'ailleurs.
C'est sûr. Un mot sur ce qu'a dit François sur le vote blanc. La question se pose et je trouve qu'elle n'est pas illégitime. Si le vote blanc est reconnu, et donc par exemple si un bulletin blanc est proposé aux électeurs dans le bureau de vote, si vous avez une majorité absolue de vote blanc, on refait l'élection. Mmh. C'est quelque chose d'envisageable. Hein,
parce vous, qu'il faut vous chercher... referiez l'élection présidentielle si ça arrivait ?
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors évidemment, c'est très lourd comme procédure. Si on passe notre vie à faire l'élection présidentielle tous les 6 mois, parce qu'on n'arrive jamais à désigner le président, il y a un problème. Mais c'est, vous faites une objection qu'on peut recevoir, mais il faut reconnaître qu'il y a problème. Dès lors que vous avez une situation où effectivement le mécontentement à l'égard du choix proposé obligerait à ce moment-là les partis politiques et les candidatures à s'organiser pour faire face à ce problème, et c'est la solution qui pourrait exister. Sur la gauche,
oui.
Mais ce n'était pas un débat inutile, le vote blanc, me semble-t-il. Mm-hmm. Sur la gauche elle-même, oui, ça ne facilite pas ses choix. C'est ça le problème, parce que le triomphe de Carole Delga en Occitanie, auquel François n'a pas voulu participer, elle n'a pas voulu des insoumis, elle n'a pas voulu des écologistes, elle a continué avec sa liste qui était faite avec le Parti communiste, les radicaux de gauche et des associations citoyennes, mais aucune alliance au-delà. Et elle a gagné absolument massivement dans la région la plus à gauche de France, hein, quand même, l'Occitanie, rappelons-le. Alors que, effectivement, par exemple, les écologistes, les leaders écologistes Bayou ou Orphelin, qui conduisaient des listes et qui avaient annoncé qu'on allait voir ce qu'on allait voir,
n'ont fait qu'une addition
et qu'ils allaient gagner, eh ben ils n'ont pas. Par exemple, en Pays de Loire, ils n'arrivent même pas à faire le total du pourcentage de gauche. Ils sont nettement en dessous. Ce qui veut dire à la fois que l'union à gauche, elle ne progressera pas facilement parce que entre les socialistes et les écologistes, il est difficile de trancher pour savoir qui porterait la candidature, et d'autre part, est-ce que l'union en soi est suffisamment moteur ? Donc la gauche est renvoyée à des problèmes, alors que la droite a eu un terrain beaucoup plus facilement dégagé dans ces élections régionales. C'est donc quelque chose de pas facile.
Chloé Morin, on disait tout à l'heure que peut-être cette élection manquait de messages clairs à envoyer, y compris, mais peut-être qu'il y avait un message clair à envoyer et qu'il n'a pas été envoyé, c'était celui vers les Verts, par exemple. On a parlé du plafond de verre, VERT, pour bien montrer que oui, on était peut-être arrivé aussi à je sais pas, un plafond à quelque chose. Est-ce que ça a du sens, ça, ou pas ?
De fait, ces élections devaient servir, enfin, c'est l'espoir que les Verts d'un côté et les socialistes de l'autre plaçaient dans cette élection, c'est trancher qui était finalement désormais le moteur de la gauche et qui autour de qui pourrait s'organiser l'union. De fait, on n'arrive pas à trancher parce que les Verts étaient plutôt en conquête, donc avec un handicap par rapport aux sortants, et les socialistes étaient plutôt ils étaient en place et donc ils ont bénéficié d'un avantage. Du coup, les socialistes ont tendance à tirer comme conclusion le fait que le Parti socialiste reste la première force de gauche et
les Verts disent la même chose parce qu'ils ont augmenté leur nombre de voix.
Mais les Verts, voilà, disent qu'ils ont augmenté leur nombre de voix. Du coup, le débat va se poursuivre et le prochain épisode, c'est évidemment le débat de la désignation d'un candidat commun, si tant est que ce soit possible.
Mais là aussi, comme pour le RN tout à l'heure, attention à l'effet loupe médiatique. Au municipal l'an dernier, on a adoré parler de la vague verte. Mmh. En réalité, c'était peut-être une vaguelette, parce que sur le nombre de communes de France gérées par les écologistes par rapport aux socialistes, c'est sans commune mesure. Sur ces élections régionales, vous retrouvez le même phénomène. Donc vous avez dans des villes comme Rennes ou Lille des cantons qui ont complètement basculé écologistes contre les socialistes, mais à l'échelle du pays, si vous additionnez tout, aujourd'hui, évidemment que le nombre d'élus locaux socialistes reste très fort, tout comme pour les Républicains, première puissance locale en élus régionaux, départementaux, municipaux. Donc il y a un côté parfois loupe qui fait qu'on pense qu'une force politique est plus forte qu'elle ne l'est.
Il y a quand même une dynamique écologiste par rapport aux socialistes qui a été marquée au premier tour de scrutin. C'est-à-dire que les régions où il y avait une concurrence directe, frontale, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de Loire, les socialistes sont derrière. Alors les socialistes gardent leur pré-carré, mais ailleurs, les écologistes ont une dynamique supérieure, ce qui rend du coup un véritable imbroglio d'une candidature entre Anne Hidalgo, Yannick Jadot ou un autre candidat écologiste extraordinairement difficile de départager.
Ça va pas être facile. En effet, j'ai oublié la question d'Hugo, je vais la prendre dans ma voix. Une réponse très rapide si vous voulez bien, parce qu'on est déjà en retard. L'agrandissement des régions n'a-t-il pas éloigné les électeurs du centre de leur région, dit-il? Ces élections locales, au fond, n'étaient plus vraiment locales à cause de la taille des régions, Jérôme Jaffray?
Ça n'est pas faux. Il y a des remises en cause des régions qui ont été faites. Je pense au Grand Est, par exemple, où il est clair que le taux d'abstention exceptionnel enregistré des 70, des 80% dans le Grand Est manifeste le mécontentement très vif du regroupement régional qui a été effectué. Et du coup, il y a là aussi une réflexion à avoir.
Merci beaucoup. Merci à tous, comme d'habitude, pour vos nombreuses questions.